Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 16 mai 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloulia. Tout d'abord les titres. Au Sénégal, un policier mort dans des heurts hier en Casamance, à la veille du procès de l'opposant Ousmane Sonko. Washington se dit atterré par des exactions commises au Mali, selon l'ONU, par l'armée malienne en mars 2022 à Moura. Le Soudan en plein chaos après un mois de guerre entre les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo. En Tunisie, Rached Ghannouchi, chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, condamné à un an de prison pour apologie du terrorisme selon des médias locaux. Ici aux États-Unis, un procureur spécial épingle les faiblesses de l'enquête du FBI sur l'ancien président Donald Trump et la Russie lors de l'élection de 2016. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Sénégal, le procès de l'opposant Ousmane Sonko doit débuter aujourd'hui devant les chambres criminelles du tribunal de Dakar. Il est accusé de viol et menace de mort par une jeune masseuse. Les rumeurs faisant état de sa possible arrestation embrasent le pays depuis lundi matin. Notre correspondant à Dakar, c'est Dina Abagay.
Après la mort d'un policier à Ziguinchor dans le sud du pays, d'autres décès sont rapportés par des témoins et des médias locaux sans qu'aucune confirmation officielle ne soit donnée pour le moment par les autorités sanitaires ou gouvernementales. Cependant, la tension dans la rue ne cesse de monter. À Ziguinchor, les jeunes ont eu de très violents accrochages avec les forces de l'ordre et au-delà du policier décédé, plusieurs blessés graves ont été notés de part et d'autre. Les militants de l'opposant Ousmane Sonko ont décidé de former un bouclier humain autour de son domicile dans la région sud du Sénégal, ceci dans le but d'empêcher une éventuelle arrestation de leur leader dans le cadre de son procès pour le viol dont l'accuse une masseuse. Ce procès, qui doit se tenir ce matin à Dakar, déchaîne les passions car dans la capitale également, plusieurs localités ont été le théâtre d'affrontements violents entre jeunes et forces de l'ordre. Des commerces ont été pillés, une agence de la Compagnie nationale d'électricité attaquée et un dépôt de la Société sénégalaise de transport public incendié avec plusieurs bus à l'intérieur. De nombreux leaders de l'opposition sénégalaise se sont également rendus à Ziguinchor, au sud du pays, pour apporter leur soutien à Ousmane Sonko, qui a établi ses quartiers depuis plusieurs jours. Ce dernier refuse de répondre à une justice qu'il juge partisane. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Les États-Unis se sont dit atterrés hier par un rapport de l'ONU accusant l'armée malienne d'avoir commis des exactions en mars 2022 à Moura, au Mali, et ont appelé le gouvernement de transition à lever ses restrictions sur la force de l'ONU. Rosine Monezero.
Les États-Unis sont atterrés par le mépris à l'égard de la vie humaine montré par des éléments des forces armées maliennes en coopération avec le groupe Wagner, soutenu par le Kremlin lors d'une opération à Moura en mars de l'année dernière, indique un communiqué de Matthew Miller, un porte-parole du département d'État. L'ONU a accusé vendredi l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté au moins 500 personnes en mars 2022 lors d'une opération anti-djihadiste à Moura, dans un rapport accablant du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Ce rapport est basé sur une enquête de la Division des droits de l'homme de la MINUSMA, mission de casque bleu déployée au Mali depuis 2013. Le rapport a été dénoncé samedi par le pouvoir malien comme reposant sur un récit fictif. Nous appelons le gouvernement de transition à mener une enquête indépendante, impartiale, efficace, exhaustive et transparente afin d'exiger des comptes responsables en accord avec les recommandations du rapport de l'ONU, poursuit le porte-parole dans son communiqué. Par ailleurs, il est crucial que la MINUSMA soit en mesure de poursuivre son mandat sans entrave, ajoute-t-il, en dénonçant les restrictions du gouvernement de transition à la liberté de mouvement de cette force de l'ONU.
Kinshasa, Kigali et le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés ont signé hier une entente pour le rapatriement des réfugiés congolais et rwandais. La signature a eu lieu au siège du HCR à Genève. Le point avec Eddie Isango.
Selon les communiqués conjoints signés par les chefs de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula, les ministres rwandais de la gestion des urgences Marie-Solange Kayisire et les hauts commissaires du HCR Philippe Ograndi, les deux pays s'engagent à accueillir les réfugiés répondant aux critères de la Convention de 1951 de l'ONU, de 1969 de l'Union africaine et aux lois applicables aux deux nations. Philippe Ograndi indique sur Twitter qu'ils ont discuté d'une feuille de route qui va conduire à des solutions pour les réfugiés congolais et rwandais. Les défis sont énormes, mais le début du dialogue a été constructif, a précisé le numéro 1 du HCR. Les problèmes des réfugiés est au centre du conflit entre les deux pays qui s'accusent mutuellement. Paul Kagame du Rwanda avait menacé de ne plus recevoir les réfugiés congolais sur son territoire. Kinshasa a toujours demandé à Kigali d'accepter les retours des Rwandais, y compris les FDLR.
Au Soudan, des combats intenses ont secoué hier Khartoum et les villes voisines de Bari et Omdurman. Ces affrontements interviennent malgré l'ouverture de discussions entre l'armée et les forces de soutien rapide à Jeddah, sous l'égide de l'Arabie Saoudite et des États-Unis, pour établir un cessez-le-feu effectif. Jean-Roger Bion.
L'armée régulière soudanaise a conduit lundi des frappes aériennes le long du Nil, au nord de Khartoum, alors qu'elle tente de repousser les forces rivales paramilitaires qu'elle affronte depuis un mois. Le chef des FSR, Mohamed Abdam Daglo, communément appelé Emeti, a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait été tué ou blessé dans les combats. Les combats ont fait au moins 676 morts et 5576 blessés, selon des chiffres officiels, même si le bilan réel est probablement plus élevé. Le conflit a poussé environ 200 000 personnes à fuir vers les pays voisins et plus de 700 000 à se déplacer à travers le pays, provoquant une crise humanitaire qui menace de déstabiliser la région. Les deux camps belligérants ont convenu la semaine dernière d'une déclaration de principe pour protéger les civils et sécuriser l'accès à l'aide humanitaire, mais les mécanismes d'application et un cessez-le-feu sont toujours en cours de discussion.
En Tunisie, Rached Ghannouchi, chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, arrêté en avril, a été condamné hier à un an de prison pour apologie du terrorisme et à une amende de 1000 dinars, soit 300 euros, selon des médias locaux. Monsieur Ghannouchi, principal opposant au président Kais Saied, qui a pris les pleins pouvoirs en juillet 2021, avait été arrêté le 17 avril et placé sous mandat de dépôt à la suite de déclarations dans lesquelles il avait affirmé que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Ennahda y étaient éliminés. Mais sa condamnation de lundi est liée à une autre affaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, est sorti renforcé du scrutin de dimanche et part en position de force pour le second tour du 28 mai. Il était annoncé perdant après 20 ans de pouvoir, Michel Joseph.
Le dernier comptage qui accorde 49,5% des suffrages au président turc contre 45% à son rival social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, ne laisse plus de doute sur la tenue de ce nouveau rendez-vous, a confirmé hier la commission électorale. Erdogan conserve aussi sa majorité au Parlement. L'issue du second tour s'annonce plus qu'incertaine pour l'opposition, malgré sa confiance répétée dans sa victoire. Elle dépendra en partie d'un troisième homme ultra-nationaliste, Sinan Oğan, qui a recueilli 5,2% des voix au premier tour et n'a pas encore annoncé s'il va ou non soutenir l'un des deux candidats. L'impact de la crise économique et le tremblement de terre dévastateur du 6 février, qui a fait au moins 50 000 morts, n'a pas eu les effets annoncés. Les provinces fortement touchées par le séisme ont massivement voté pour Erdogan. La vaste coalition de l'opposition, composée de 25 formations, dont le parti de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne, voulait en finir dès le premier tour. Son vice-président a reconnu hier que les quelques 300 urnes du vote de l'étranger, qui restent à décompter, ne vont pas changer la donne.
La police fédérale américaine s'est contentée d'informations douteuses pour ouvrir une enquête sur des soupçons de collusion entre Moscou et les républicains Donald Trump lors de la présidentielle de 2016, selon un rapport du procureur spécial John Durham publié lundi. M. Durham estime que le FBI s'est appuyé sur des renseignements bruts qui n'avaient pas été analysés ni corroborés pour lancer ses investigations et a ensuite manqué d'objectivité dans la gestion de ce dossier très politique. La Minute Éco, Nanit Talani.
En RDC, l'ONG Asado accuse la MIBA, une entreprise nationale dans le Kasaï oriental, de violer les lois et la norme ITIE en matière de publication de contrats miniers. Selon Radio Okapi, à Mbujimayi, l'Asado accuse les partenaires chinois d'exploiter le diamant avec des actions qui s'apparentent à un pillage organisé et entretenu par les responsables de la société. L'Association de défense des droits de l'homme demande l'intervention urgente des autorités pour arrêter ce qu'elle qualifie de pillage systématique du diamant. Au Kenya, l'un des principaux organismes de certification de produits de développement durable, Rainforest Alliance, a annoncé le retrait de son label à deux filiales de géants mondiaux de la fabrication de thé, James Finlay et Ekaterati, mises en cause pour des abus sexuels dans des plantations. Rainforest Alliance a mené sa propre enquête qui a conduit à la suspension des certifications des deux sociétés. Pour terminer, la Banque centrale d'Éthiopie a délivré à l'opérateur kényan des télécoms, Safaricom, la première licence de transfert d'argent par téléphone mobile accordée à un opérateur étranger dans ce pays où le secteur bancaire est 100% éthiopien. Safaricom prévoit de lancer ses services financiers via téléphonie mobile au deuxième semestre 2023. Son service M-Pesa, très répandu au Kenya, permet aux utilisateurs d'envoyer et recevoir de l'argent, de payer des factures ou des achats, même sans disposer d'un compte bancaire. Il est utilisé par 51 millions de personnes dans 7 pays africains.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Ligue des champions ce soir en Europe.
Oui, l'Inter Milan du Camerounais André Onana reçoit à 19h temps universel son voisin de l'AC Milan avec 2 buts d'avance. 2 fois par le passé, l'Inter a plié contre l'AC Milan dans le derby en Ligue des champions. En demi-finale en 2003, battu seulement au but à l'extérieur. Pour 2 matchs à San Siro et corrigé en quart de finale en 2005, l'Inter a confirmé sa forme en battant Sassuolo 4-2 ce week-end, alors que Milan pliait chez un mal classé La Spezia 2-0. Si les deux équipes ont ménagé leurs attaquants en Serie A, les Rossoneri sont privés d'Ismaël Benacer qui s'est blessé à l'aller et leur bulldozer offensif Leao qui a beaucoup manqué à l'aller reste incertain. Dans l'autre demi-finale retour mercredi, Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez avait été sorti à ce même stade de la compétition l'année dernière. Comme l'an passé, City a pris un petit avantage à l'aller en ramenant un nul de Bernabeu, 1-0. Il faudra confirmer à domicile pour retourner en finale et poursuivre le rêve des propriétaires émiratis de remporter enfin la Ligue des champions après l'échec contre Chelsea 1-0 en 2021.
Ouverture au public de l'imposant mausolée de Pelé au Brésil.
Des admirateurs ont visité hier lundi pour son ouverture au public le mausolée où repose la dépouille de la star brésilienne du football Pelé, décédé en décembre à l'âge de 82 ans dans la ville de Santos dans le sud-est du Brésil. 2 statues dorées du roi Pelé attendaient les premiers visiteurs à l'entrée du mausolée d'Edson Arantes do Nascimento. Le mausolée spécialement conçu pour lui s'étend sur 200 mètres carrés et rappelle un stade de football avec son gazon synthétique et des photos du roi. L'accès se fait par un couloir de 2 mètres de large décoré de photos de l'ancien numéro 10. Sa dernière demeure se trouve dans un cimetière vertical, le plus haut du monde selon le livre Guinness des records. Son père, son frère et l'une de ses filles y reposent aussi.
Basketball ici aux États-Unis avec les finales de conférence qui débutent ce soir.
3 ans après leur finale de conférence dans la bulle anti-Covid d'Orlando, les Lakers de LeBron James défient les Nuggets de Nikola Jokic. Le Heat de Jimmy Butler affronte les Celtics de Jason Tatum. Demain mercredi, ces retrouvailles n'étaient pas forcément attendues il y a à peine 1 mois à l'entame de ces playoffs, car la saison régulière écoulée n'avait pas été une partie de plaisir pour les Los Angeles et Miami, tous deux ayant dû passer par les barrages pour se qualifier. Et voilà ces deux équipes transfigurées à désormais 4 victoires chacune de s'offrir un remake de la finale de 2020 qui avait alors souri aux Californiens. Au même titre que leurs grands rivaux historiques des Celtics, les Lakers sont donc toujours en lice pour un 18e sacre.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Soudan, la guerre déclenchée il y a un mois entre l'armée que dirige le général Abdel Fattah al-Burhan et les militaires, les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo a fait près d'un millier de morts, des milliers de blessés et près d'un million de déplacés et de réfugiés. Plusieurs pays et organisations internationales ont appelé à un cessez-le-feu et tenté une médiation pour mettre fin à la crise. C'est le cas de l'Organisation de la coopération islamique. Mohamed Houmfa s'est entretenu avec son directeur des affaires politiques, Mohamed Salah Tekaya.
Le secrétaire général de l'OCI, son excellence Hessein Bayen Taha, dès le premier jour du déclenchement des événements au Soudan, a lancé des appels à la cessation des hostilités, à une trêve humanitaire, au recours au dialogue. Il a mené des contacts avec les États membres de l'OCI, avec l'Arabie Saoudite en sa qualité de président du sommet islamique et président du comité exécutif, avec la Mauritanie, avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. L'OCI s'est félicité de l'initiative de l'Arabie Saoudite et des États-Unis d'Amérique de tenir les pourparlers à Jeddah entre les parties. Et nous souhaitons et nous espérons que ces consultations aboutiront à une cessation définitive des hostilités et la reprise du dialogue.
En pareille situation, au Soudan par exemple, on sait qu'il y a plusieurs pays qui sont impliqués. Certains pays membres de l'OCI soutiennent un camp, d'autres pays soutiennent un autre camp. Est-ce qu'au sein de l'OCI, est-ce que vous ressentez ces dissensions? Et comment est-ce que vous organisez pour parvenir à mobiliser, à faire entendre une seule voix, étant donné que tous ces pays sont membres de l'OCI?
D'ailleurs, le communiqué final du comité exécutif reflète bien l'unanimité, reflète bien une position commune en ce qui concerne la situation au Soudan. Le problème du Soudan est un problème interne et il faut que les Soudanais eux-mêmes parviennent à régler ce problème-là. Sur cette question, il y a une unanimité. Le communiqué qui a été adopté à la suite de cette réunion précise qu'il s'agit d'une question interne. Ce communiqué aussi rejette toute ingérence extérieure. Donc je pense que les États membres de l'OCI sont unanimes sur cette question.
De quels moyens dispose l'OCI pour exercer une influence positive et contribuer à la résolution des crises dans les États membres, là où on a parfois l'impression que c'est l'Occident qui a la manœuvre, l'Organisation des Nations Unies et autres? Est-ce que l'OCI a des moyens d'influencer ces pays et ces crises-là?
Bon, l'OCI, c'est 57 États. Et ces 57 États, évidemment, reflètent une diversité culturelle, une diversité politique. Pour exercer son rôle et d'une manière efficace, l'OCI est en train de développer son architecture de paix et de sécurité pour, par exemple, renforcer ses capacités en matière de médiation, recourir aux envoyés spéciaux, aux bons offices, et elle fournit des efforts importants dans ce domaine.
C'était Mohamed Salah Tekaya, directeur des affaires politiques de l'Organisation de la coopération islamique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, la présence des hommes dans l'univers de la mode, de l'esthétique et de la beauté est de plus en plus visible. En effet, plusieurs salons de coiffure sont tenus par des hommes dans le district d'Abidjan. Le secteur de la coiffure pour dames, autrefois dévolu aux femmes, est de plus en plus investi par des hommes, nous dit Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
Nous sommes ici à Ancré, 8e tranche dans la commune de Cocody, au marché Cocovico, où un palier est réservé à l'esthétique et à la beauté. On y trouve des salons de coiffure pour dames, avec comme spécialité les tresses, les tissages et autres soins de beauté. Et ceux qui y travaillent sont des hommes.
Je m'en ai souri, coiffeur. Je fais spécialement les dreads, les perruques, tissage. Je crois beaucoup les dames de 20 à 50 ans. Et je me sens à l'aise, donc franchement. J'ai appris, j'aime le métier et je suis fier de ça.
Escale à la Riviera Palmeraie, toujours dans la commune de Cocody, quartier où l'on trouve de nombreux coiffeurs pour dames. Nous avons rencontré deux d'entre eux qui disent exercer ce métier depuis plusieurs années. Hervé Touche, coiffeur professionnel d'âme et responsable de l'Institut Hervé Touche depuis 9 ans.
Nous, on fait les coupes d'âme parce que c'est une spécialité qui n'était pas répandue à Abidjan. On a opté de coiffer, de spécialiser dans les coupes d'âme vu que je sais bien faire quand même. Voilà, donc les coupes que nous faisons ici sont les coupes tendances et, voilà, qui sont d'actualité. Donc plus les jeunes dames sont attirées.
En plus de la coiffure, Hervé Touche propose un autre attrait de beauté à sa clientèle.
On fait les ongles, voilà, tel que vous le voyez. Enfin, la manucure, pédicure, tout, voilà. Donc, alors j'ai du personnel qui voit de la même façon que moi la coiffure d'âme. C'est un métier comme tout autre métier. Alors, nous y sommes.
À l'opposé de la voix, Jules Connet est dans la profession depuis 6 ans. Lui propose à sa clientèle une gamme complète de soins de beauté.
J'ai fait un peu de tout, que ce soit coupe de cheveux, tissage, les coiffures de mariage et les maquillages, puis les soins corporels aussi.
Et certaines femmes préfèrent se faire coiffer par des hommes pour diverses raisons. Fatim Sangaré est une habituée de l'Institut Hervé Touche.
J'aime me tresser chez les hommes parce que les hommes, ils sont accueillants, souriants, ils sont toujours aux petits soins.
Comme on peut le constater, coiffure et esthétique riment aussi avec les hommes. Ils sont devenus des pions essentiels dans les soins de beauté des femmes à Abidjan. Reste donc à chaque femme de faire son choix. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
De nombreux enfants dans le monde ont besoin d'une éducation spéciale en raison d'un handicap ou de troubles d'apprentissage. Ici aux États-Unis, ils sont près de 7 millions selon le Centre de recherche Pew. Une loi de 1975 rend obligatoire une éducation publique gratuite et appropriée aux élèves éligibles jusqu'à 21 ans. La majorité des enfants ayant des difficultés d'apprentissage sont intégrés dans des écoles ordinaires où ils reçoivent des soins spéciaux. Au micro de Nathalie Barge, écoutons le docteur Stéphanie Mbella, professeure spécialisée et conseillère en orientation dans un collège communautaire de l'État du Maryland, et expliquer ici les mécanismes permettant à ces élèves de bénéficier d'une éducation inclusive de qualité au sein du système public.
L'école qui reçoit des fonds fédéraux doit respecter cette loi. Donc, il y a des facteurs qui sont des déterminants qui sont vraiment listés toute l'année pour mesurer le progrès de ces enfants qui souffrent de handicap. Et quand les districts scolaires n'arrivent pas à atteindre ces objectifs qui ont été déterminés au début de l'année académique, il y a certaines pénalités qui s'en suivent. Ces districts, ils peuvent être mis sous assistance. Donc, le gouvernement fédéral va intervenir pour leur permettre de mettre sur pied l'application de la loi. Et parfois, ça peut être 1 an ou 2 ans. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le côté financier est vraiment une grosse incitation parce que si un district scolaire n'arrive pas à être conforme à la loi, il peut voir son budget par enfant être réduit et ça a d'autres conséquences qui se répercutent sur tout le système scolaire.
Alors, les parents, comment sont-ils soutenus pour accompagner leur enfant en difficulté d'apprentissage? Et aussi, quelles relations ont-ils avec l'éducateur?
Il y a une équipe qui est en place. L'équipe est là en commençant par les psychologues. Il y a une assistance sociale. Si l'enfant a besoin d'une infirmière, d'un orthophoniste, il y a ces ressources qui sont disponibles. Il y a toujours des para-éducateurs qui sont un peu comme des assistants de professeurs, des maîtresses et des maîtres pour aider. Et les parents ont des relations avec ces derniers. Donc, je veux dire par là qu'il y a toute une structure pour aider les parents. Même dans les communautés, il y a des ONG qui donnent du repos à plus, des parents. Ouais. Oui, donc ils sont soutenus.
Ça nous ramène un petit peu au résultat de l'éducation spécialisée. Qu'en est-il du taux d'abandon scolaire et de réussite? Celles et ceux qui décrochent les diplômes, qui décrochent des diplômes malgré leurs conditions. Vous-même, dans votre travail, vous avez eu des satisfactions.
Oui, personnellement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants qui essayaient d'entrer dans le milieu du travail après l'obtention de l'équivalent du bac au lieu de continuer les études supérieures. Mais il y en a qui poursuivent des études supérieures, il y a des universités qui sont là pour recruter ces enfants qui ont des troubles d'apprentissage et autres. Et dans mon cas personnel, j'ai eu à travailler avec une jeune dame qui aujourd'hui a eu son master's et elle est assistante sociale. C'était très difficile, je me rappelle, et elle me le rappelle aussi. Mais quand je la vois, je dis que les miracles existent et elle est très généreuse. Elle veut vraiment rendre à la société ce qu'elle a reçu de tout ce support qu'elle a eu tout en étant au lycée.
Quelle est la plus belle chose que vous avez appris avec ces enfants, avec ces jeunes?
Il ne faut jamais négliger quelqu'un. L'éducation, c'est un droit et toute personne peut vraiment y arriver.
Le docteur Stéphanie Mbella, professeur spécialisé, conseillère en orientation dans le Maryland, ici aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
États-Unis toujours, l'administration Biden affirme qu'elle ne fait pas obstacle aux demandeurs d'asile. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a souligné plutôt qu'il existait un moyen légal et régulier pour arriver aux États-Unis. Mise en perspective de Veronica Balderas Iglesias, récit Jean-Roger Bion.
D'après la police des frontières et les douanes américaines, l'afflux de migrants a chuté de près de 50% à la frontière sud des États-Unis ces derniers jours. Le secrétaire à la sécurité intérieure l'a annoncé lors de son passage à l'émission This Week de la chaîne ABC en comparant les données chiffrées disponibles avant l'expiration du titre 42 jeudi dernier.
Nous avons déjà expulsé des milliers de personnes qui sont arrivées à notre frontière sud. Nous mettons en application les lois en vigueur en matière d'immigration en vertu du titre 8 du Code migratoire des États-Unis.
Monsieur Mayorkas a souligné que l'expansion des voies d'accès légales sous le président Joe Biden est inédite. Il a également rejeté les affirmations selon lesquelles les demandeurs d'asile sont systématiquement ignorés.
Ce que notre législation prévoit, c'est que tout individu doit utiliser les voies légales que nous mettons à sa disposition. S'il ne l'a pas fait, il devrait chercher à obtenir une aide dans l'un des pays qu'il a traversé et où il s'est vu refuser cette aide. Et s'il n'a fait ni l'un ni l'autre, il ne s'agit pas d'une interdiction d'asile, mais il se verra imposer des contingences plus difficiles à respecter.
Le député républicain Michael McCaul a déclaré à ABC qu'il était sceptique quant à la capacité des nouvelles politiques à décourager les entrées illégales aux États-Unis.
Je pense qu'il y a des caravanes qui progressent. Je pense que ces gens veulent toujours entrer. Le gouverneur de mon propre État a envoyé la garde nationale du Texas et des agents à la frontière pour stopper l'afflux. Mais oui, le fait est que les deux dernières années et demie parlent d'elles-mêmes. 5 millions de personnes sont entrées illégalement dans ce pays, dont 1,5 million ont réussi à s'enfuir. C'est intenable.
Les migrants sont souvent contraints de fuir après avoir été confrontés à des crimes horribles dans leur pays d'origine, affirme le professeur de droit Blaine Bouki. Il y a de fortes chances que les nouvelles voies légales sur lesquelles mise l'administration Biden contribuent à décourager les traversées illégales, mais cela pourrait aussi aller dans l'autre sens si l'on ne s'attaque pas aux causes profondes, a averti l'analyste Peter Margulies.
Il s'agit des facteurs qui, dans le pays d'origine, par exemple en Amérique centrale, au Guatemala, au Honduras et au Salvador, amènent les gens à quitter leur pays. Il s'agit notamment de facteurs économiques, du changement climatique et de la menace de violence.
Les autorités américaines admettent qu'un afflux d'immigrants sans papier pourrait encore se matérialiser dans les jours à venir, même si des interdictions de séjour de 5 ans et des poursuites pénales sont désormais prévues pour ceux qui cherchent à défier la loi.
Merci Jean-Roger. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidulia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Jonah Kamins. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com.